France Musique. La rose bleue des symbolistes russes. En Russie, les révolutions de février et d'octobre 1917 marquent l'aboutissement de la longue suite de désastres qui ont jalonné le destin de la Russie depuis le milieu du 19e siècle. La guerre de Crimée et le traité de Paris en 1856, l'assassinat du tsar réformateur Alexandre II en 1881, la politique réactionnaire et obtuse de ses successeurs Alexandre III et Nicolas II. Après quelques années plus calmes, le début du XXe siècle voit se succéder la guerre russo-japonaise, le dimanche sanglant du 22 janvier 1905, des grèves incessantes, plusieurs milliers de morts suite aux attentats et à leur répression. En août 1915, alors que toute l'Europe s'enflamme, le tsar prend la direction des armées. Il n'a aucune formation militaire. La tsarine conduit les affaires intérieures sous la domination de Raspoutine. Bilan, plus de 6 millions de morts et blessés. La chute inéluctable de l'Empire. À Petrograd, le manque de pain et de charbon provoque la multiplication des manifestations et des émeutes. Les journées des 8 au 11 mars 1917 sont décisives. Le 15, Nicolas II abdique en son nom propre et en celui de son fils, le tsarévitch Alexis. Il met alors fin aux 3 siècles de règne des Romanov. Malgré ces drames et ces incessantes perturbations de la vie sociale en Russie, les activités intellectuelles et artistiques connaissent un âge d'or. Ce terme a déjà été utilisé pour illustrer l'essor littéraire sous Catherine II, mais aussi celui de la poésie au début du XVIIIe siècle, dominé par Pouchkine. Alors, on le remplace par l'âge d'argent, celui des changements esthétiques de la littérature russe du début du XXe siècle. Car jusqu'alors, la prose est réaliste et utilitaire, parfois engagée socialement. Mais une nouvelle dimension psychologique vient perturber la fin du siècle. On découvre que l'art peut émerger de morales moins soumises, de gestes moins prévisibles dans la nature humaine. L'art revendique alors son autonomie et proclame l'art pour l'art. C'est un grand changement face à la stagnation littéraire, mais aussi à la censure qui règne sous Alexandre III. Antithèse du réel, le symbolisme devient alors l'expression la plus marquante du changement. Au tournant du siècle, la Russie se colore du mouvement symboliste européen. Le symbolisme survient alors comme une réaction idéaliste au XIXe siècle matérialiste. Ce siècle, de plus en plus déchiré par de profondes contradictions et des conflits sociaux. Les artistes de la seconde moitié du XIXe siècle observent la réalité qui les entoure. Ils cherchent à en comprendre le sens. Non pas le sens du reflet de cette réalité, mais le sens de la vraie réalité, de la réalité supérieure, celle de la sensibilité. Le symbolisme s'efforce à détourner l'attention des hommes d'une vision rationnelle du monde. L'art ne doit plus être au service du peuple, mais l'expression d'un esthétisme raffiné, proche de l'art nouveau. En 1898, le futur créateur des ballets russes, Serge Diaghilev, crée la revue Le Monde de l'Art. Avec ses amis, les peintres Alexandre Benois, Léon Bakst et Valentin Serov, il offre une formidable tribune pour les nouveaux symbolistes. Le courant symboliste apparaît en Russie plus tardivement que dans les autres pays d'Europe. Ce sont Verlaine et Mallarmé en France, Maeterlinck et Verhaene en Belgique, qui donnent à la Russie ses nouvelles couleurs. Mais elle les teinte de traits nationaux, d'un profond lyrisme et d'une grande densité poétique. Les idéalistes russes mettent en lumière leurs préoccupations mystiques ou philosophiques, sans doute leurs rêves, mais aussi leurs interrogations, leurs doutes et leurs aspirations en cette fin de siècle ressenties comme trop matérialistes. Alors, ils puisent dans le folklore, les mythes et légendes, la religion et la musique. Ces artistes sont sensibles à l'aspect décoratif de toute chose. Ils sont empreints d'une profonde spiritualité propre à la conscience nationale. Ils tentent alors de faire dialoguer peinture, musique et poésie. Ils offrent à leurs œuvres rythme et mouvement, lumière tamisée et fluidité des couleurs. ce fameux bleu irisé, véritable signature du symbolisme russe. La majestueuse Volga bleue enseigne aux artistes le mystère du beau et de l'harmonie. Le bleu de l'eau, l'azur clair du ciel infini et l'or du soleil deviennent pour les artistes de la rose bleue l'incarnation de la beauté de l'univers. Cette harmonie de couleurs détermine alors le coloris spécifique de l'art symboliste russe. Dès les années 1880, Sava Mamontov, mécène, amateur et connaisseur d'art, réunit autour de lui un cercle d'artistes qui transforme bientôt son domaine en un des cercles novateurs de la Russie. L'activité du cercle de Mamontov est imprégnée de la soif d'innover l'art, de lui insuffler une nouvelle vie, de lui redonner spontanéité, fraîcheur et pureté morale. Elle s'appuie sur le désir de faire renaître les artisanats populaires et l'esprit de l'ancienne Russie. On organise alors des conférences d'histoire et des concerts où se produisent des conteurs populaires. Sur la scène d'un théâtre privé, on monte des pièces consacrées à la vie des paysans, aux légendes traditionnelles. Le théâtre occupe une place toute particulière dans le symbolisme russe. Il est considéré par les artistes comme une des voies les plus naturelles pour surmonter la banalité et l'ennui de l'art réaliste. Il est le symbole incarné, le reflet de la vie. Sur la scène, l'artiste devient le véritable créateur de la nouvelle réalité selon les lois du beau. Le cercle de Mamontov draine alors tous les peintres de l'avant-garde de l'époque, comme Mikhail Vroubel, Valentin Serov ou Alexandre Golovin. Nicolas Roerich, peintre pétersbourgeois, donne quant à lui sa propre variante du nouveau style. Il se passionne pour l'archéologie, s'intéresse à la vie de la Russie d'avant le christianisme, à son histoire, ses légendes, ses croyances. Les héros de ses premières œuvres symboliques sont les anciens Slaves, de preux guerriers puissants adorant leurs sombres idoles maléfiques, vivant les lois implacables de la tribu. Comme tous les artistes du nouveau style, Roerich s'illustre par ses panneaux décoratifs. Ses compositions sont pleines de force et traduisent souvent une grande tension intérieure, enfermée dans des formes décoratives, strictement organisées. Le public parisien découvre ces décors lors de la fameuse représentation du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs-Élysées le 29 mai 1913. La musique est d'Igor Stravinsky. C'est le grand Serge Diaghilev, directeur des ballets russes, qui présente le compositeur au peintre quelques mois plus tôt. La seconde vague du mouvement symboliste s'ouvre avec Victor Borisov-Moussatov. Il devient le créateur d'un nouveau genre fondé sur une conscience artistique symboliste. La représentation cède la place à l'expression. Sa pensée se forme sous l'influence du symbolisme français. Dans la seconde moitié des années 1890, l'artiste passe plusieurs années à Paris, où il étudie la peinture. Il est en admiration devant Puvis de Chavannes, son idole, mais il suit davantage ses successeurs, les membres du groupe des Nabis mené par Maurice Denis. Le russe partage avec eux la même conscience des possibilités d'expression musicale contenues dans la peinture. Les symbolistes mettent la musique au sommet de la hiérarchie des arts tout en rêvant, comme Verlaine et Mallarmé, de lui reprendre son bien. L'histoire des artistes de la Rose Bleue est unique, mais l'œuvre de cette communauté de symbolistes reste ignorée, car trop étrangère à l'idéologie soviétique. Les boutons de rose ne s'ouvrent jamais complètement. Ils gardent leur mystère.
À réécouter sur francemusique.fr.